Bonjour, bonjour à tous. Mardi 22 mai 2010, dans les voies de service sur Canal M, c'est Louis de Bernis qui vous parle. Bonjour Jean-François.
Bonjour Louis.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Très très bien, c'est une première, on commence la semaine ensemble, c'est rare que ça arrive.
C'est vrai, c'est enfin une semaine qui commence vraiment bien.
Ça me plaît bien. Vous avez célébré la Saint-Patrick?
Oui, tout à fait.
Vous avez regardé le mariage princier?
Non, ça non. Il y a tellement d'autres belles choses à faire
c'est
ici.
C'est très vrai, ben, entre autres sentir les lilas. Sont en fleurs, ça sent bon.
Ils sont sortis, oui, oui. Non, beaucoup de... Je comprends tous ceux qui s'émerveillent devant le mariage princier. Moi, j'ai décidé de passer ma fin de semaine ailleurs que devant la télé.
C'est sage.
Il y avait quand même du beau temps, il fallait en profiter.
Très vrai.
Quels sont les sujets du jour? Quel est le programme aujourd'hui, Jean-François?
Je vais vous surprendre, Louis. Étonnamment, je donne dans l'insecte aujourd'hui. Normalement, ce sont des sujets que je vous laisse, mais j'ai été interpellé.
C'est pour
fois.
Tout le monde. Je ne réserve aucun sujet. Vous pouvez y aller.
Alors, voilà, on a donc... Je vous parle d'une mouche rose. Ça vous étonne, hein?
J'avais parlé de chocolat rose, mais mouche rose, peut-être est-elle tombée dans du chocolat, on va voir.
Possiblement. Je vous donnerai les détails tout à l'heure. Je vous parle d'une abeille. En fait, c'est le lien entre les abeilles et l'accueil bono. Alors, l'abeille se trouve à être un élément qui favorise la réinsertion sociale.
On a beaucoup à apprendre des abeilles.
Oui, on a beaucoup à apprendre des abeilles. Et si ça peut aider la réinsertion, pourquoi pas? Je vous parle également d'un robot insecte. Alors, la technologie nous réserve souvent de belles surprises. On en a un bel exemple ici. On reste toujours dans les insectes. Mais je les quitte à partir de ce moment pour revenir avec un sujet que j'ai pas eu l'occasion de développer la semaine dernière. C'est un hommage aux femmes de pouvoir qui est présenté au musée Pointe-à-Calière. Alors, je vous parle de ça. Et si on a le temps, un article qui vous invite à éviter de s'apitoyer sur son sort. Au travail. Alors, on a un exemple inspirant.
Encore de bons conseils, je sens, de votre part. Excellent. Pour ma part, nous irons dans les insolites, comme d'habitude. Je vous parlerai d'un refuge pour loups et ours traumatisés. Oui, il y en a, malheureusement. Nous parlerons également de l'île de Géorgie du Sud, qui est parvenue à éradiquer les rats. C'était important, ils l'ont fait. Et également, nous aurons le temps, pas mal de petits articles assez courts sur un record qui a été battu au sommet de l'Everest. Ça n'arrive pas souvent. Également, pourquoi pas de l'armure d'Iron Man qui a été volée, figurez-vous.
Vraiment?
Et oui.
Oh my God.
Et vous verrez tout ça dans quelques instants dans les voies de service.
Mouche rose, Louis, vous êtes prêt?
Je suis bien assis, bien en place.
C'est parti. Cet agriculteur élimine les pesticides grâce à une solution plutôt surprenante. C'était publié sur le site web de Radio ici Radio-Canada vendredi dernier, le 18 mai. Ne plus utiliser d'insecticides, mais produire tout autant de légumes et sans payer plus cher. Est-ce une utopie? Eh bien, pas du tout pour Jean-Bernard Van Winden et une quinzaine d'autres producteurs maraîchers de la Montérégie. Pour y arriver, ils utilisent des mouches roses. C'est un texte de Thomas Gerbet. Dans un petit sac en papier se cache l'armée biologique de Jean-Bernard Van Winden. 5000 mouches roses. Elles sont relâchées dans son champ d'oignons dans l'espoir qu'elles s'accouplent avec les ennemis du producteur maraîcher, les mouches de l'oignon, des ravageuses dont les larves détruisent les bulbes. Les mouches roses ont été préalablement irradiées pour devenir stériles. Les accouplements donneront des œufs vides, ce qui, à terme, entraînera la destruction de la population de ravageurs. Si elles sont colorées en rose, c'est pour mieux les compter par la suite et évaluer la réussite de l'opération. La technique fonctionne, se réjouit l'agriculteur. Je suis certain de ne pas avoir plus de 2% de pertes à la récolte. Avec cette garantie, on favorise moins de pesticides dans la nature. Résultat notable pour la santé et l'environnement. En temps normal, pour lutter contre la mouche de l'oignon, les producteurs utilisent l'insecticide Lorsban qui contient un ingrédient actif très néfaste qui s'appelle le chlorpyrifos. Voilà. Ce dernier a été reconnu par le gouvernement du Québec comme le quatrième pesticide qui présente le plus de risques pour l'environnement. Son utilisation sera d'ailleurs encadrée, tout comme celle des pesticides tueurs d'abeilles. Dans un rapport remis au ministère de l'Agriculture en février, on apprend que de 2015 à 2017, les indicateurs de risque pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation du chlorpyrifos pour l'ensemble des producteurs ayant eu recours aux mouches ont diminué respectivement de 45 et 75 %. Dans la seule année 2017, cela a évité l'utilisation de plus de 9 tonnes de produits chimiques. En 2015, une enquête de Radio-Canada révélait une forte concentration de ce produit dans les cours d'eau agricoles. Un ruisseau de la région d'Oka dépassait de 1650 fois les critères de qualité pour la protection de la vie aquatique. Comme 90 % des oignons du Québec sont produits dans la MRC des Jardins de Napierville, dans l'ouest de la Montérégie, les cours d'eau du secteur étaient pollués eux aussi. Mais la situation s'est améliorée grâce aux mouches roses. Selon les analyses menées par le ministère de l'Environnement du Québec, la concentration maximale de chlorpyrifos détectée dans le ruisseau Guibaud-Delisle ont passé de 2,2 microgrammes par litre en 2006 à 0,05 microgrammes en 2014. Tout de même très notable. On est très fiers, dit Anne-Marie Fortier, la coordonnatrice de l'entreprise Phytodata qui produit les mouches. Déjà, des agriculteurs de Lanaudière ont commencé à utiliser les mouches roses et un premier essai sera réalisé en Ontario cette année. C'est aussi l'environnement des agriculteurs et celui de leurs enfants qui est contaminé par les pesticides, car ils vivent tous sur ou à proximité de leur ferme, rappelle-t-on. L'usine de mouches de Saint-Édouard, qui en produit déjà 20 millions par année, ne suffit plus. Il faudra en construire une nouvelle sous peu. Alors, Louis, vive la mouche rose.
Vive les mouches roses. Poursuivons avec les bestioles. Alors, celles que je vous propose sont un peu plus grosses que des mouches, puisque je vous parle d'ours et de loups. Alors oui, ça fait très peur quand on en parle comme ça, mais figurez-vous qu'ils peuvent être traumatisés, certains.
Eux-mêmes,
hein? Mais, bah oui, vous okay. allez... C'est une réalité, et heureusement pour ça, eh bien, il y a des gens qui se mobilisent et un refuge qui existe. Je vous en parle, ça se passe en Grèce. Patrick jette un coup d'œil inquiet sur les visiteurs. Puis il s'accroupit, lèche ses griffes et émet une sorte de ronronnement. Ça le calme quand il est stressé, un peu comme sucer son pouce, explique sa soigneuse, Mélina Avergouni. Patrick, Barbara, Ousko, les ours du refuge d'Arcturos, qui les accueillent, ainsi que des loups sur les pentes du mont Vitsi, dans le nord-ouest de la Grèce, sont souvent de grands traumatisés. Patrick, 3 ans, a été retrouvé à l'âge d'un mois, errant à la frontière gréco-albanaise, sa mère ayant apparemment été tuée par des braconniers. Relâché dans la nature à 1 an, il est réapparu 1 mois plus tard pour ne plus quitter les lieux. La nature n'est pas sûre pour lui car il n'a pas appris à se méfier des humains, explique Madame Avergeroni. Fondée en 1992, la structure Arcturos a recueilli des animaux venant d'aussi loin que l'Autriche ou la Géorgie. Il y a d'autres refuges dans les Balkans et ailleurs en Europe, mais ils sont souvent déjà pleins. Ces vastes enclos proches des villages de Naimfayo et Agrapidia accueille actuellement dans des forêts de hêtres et de chênes plus de 20 ours et 7 loups. 7 autres loups sont attendus en provenance d'un zoo italien. Arcturos était au départ un projet de sauvetage des ours dansants. Longtemps très populaire dans les Balkans, où il persiste encore sporadiquement, ce spectacle de rue était construit sur la souffrance animale, les ours dressés étaient forcés de marcher sur des braises. Depuis, le refuge se spécialise dans la préparation des animaux recueillis au retour à la vie sauvage. Il y a beaucoup de problèmes avec les ours en captivité dans les Balkans. Le pire, c'est en Albanie et à Skopje, en Macédoine, où il y a encore des lacunes légales, explique la soigneuse. L'ours Barbara reste comme prisonnière du zoo serbe dont elle a pourtant été délivrée il y a 20 ans. Elle continue à arpenter nerveusement son enclos en secouant la tête. Ousko, lui, n'a pas connu chaînes et cages, mais retrouvé paraplégique tout petit, il ne doit sa liberté de mouvement qu'à ses gardiens d'Arcturos. Ils lui ont fabriqué un petit chariot, lui permettant d'aller et venir sur terrain plat. Au fil des années, Madame Avgerinou s'est improvisée puéricultrice. Depuis avril, c'est elle qui nourrit au biberon le dernier arrivant. Baptisé Luigi, en l'honneur du gardien de but de la Juventus de Turin, l'international Gianluigi Buffon. Ses sauveteurs ont tenté de retrouver sa mère pendant 2 jours en vain, avant de se résoudre à l'extraire de son environnement naturel. Trois autres oursons recueillis récemment en Bulgarie doivent le rejoindre prochainement. Deux jeunes congénères du Monténégro complètent actuellement la crèche d'Arcturos. L'addition est coûteuse pour le refuge, quelque 15 000 par an pour un ours et 10 000 pour un loup. Ça n'est pas précisé, je suppose qu'il s'agit d'euros. Le refuge surfe sur l'éveil d'une conscience écologique en Grèce, où la faune et la flore restent très riches, mais menacées. Nous essayons d'apprendre aux gens qu'ils ne sont pas seuls dans la nature, et qu'ils ne doivent pas la voir comme une rivale, relève un des guides. Dans la région où se concentre nombre des quelque 400 ours et 700 loups estimés vivre en Grèce, l'ONG travaille ainsi à sensibiliser les agriculteurs pour qu'ils se protègent des prédateurs autrement qu'en les tuant. Dans ce combat, les responsables de l'ONG ont trouvé un allié de choix dans une espèce locale de chien de berger en voie ainsi d'être sauvé d'extinction. « Nous avons donné plus de 800 chiots depuis 1999 », explique Vassilis, le responsable de l'association. Contrairement à d'autres espèces, ces chiens protègent les troupeaux mais sans tenter de tuer les prédateurs qui les attaquent. L'ONG avait d'ailleurs un moment envisagé de faire la promotion de ses gardiens de troupeaux à l'étranger, là où, comme dans les Pyrénées en France, la cohabitation s'est envenimée entre bergers et prédateurs. Mais malheureusement, le projet n'a pas pris forme. Grâce à une donation d'environ 760 000 dollars canadiens de la fondation Niarchos, qui gère un leg d'un des grands armateurs grecs historiques, la structure espère devenir une référence dans les Balkans en matière d'accueil et de soins vétérinaires. Ce sera un centre en mesure de fournir des solutions aux pays voisins, peut croire le porte-parole de l'ONG, Panos Stéphanou.
On reste toujours avec les insectes. Cette fois, réinsertion sociale des abeilles font la différence à l'accueil Bono. Vous connaissez l'accueil Bono?
Oui, absolument.
Vous connaissez l'abeille aussi?
Oui, les deux ensemble, on va voir. C'est voilà. Plus inédit.
C'était publié dimanche dernier sur le site d'ici Radio-Canada. C'est un texte d'Olivier Bachand. La toute première journée mondiale des abeilles est célébrée dimanche, était célébrée dimanche à l'initiative de l'ONU pour souligner l'importance de cet insecte pollinisateur dans nos vies. Si les abeilles contribuent à nourrir la planète, elles peuvent aussi favoriser la réinsertion sociale. Depuis 5 ans, des itinérants qui fréquentent l'accueil Bono à Montréal ont la chance de devenir d'apprentis apiculteurs. Par un avant-midi ensoleillé, Mario Brodeur est au travail sur le toit de l'accueil Bono. L'homme à la longue barbe blanche, qui porte fièrement un chandail jaune sur lequel figure une abeille, s'occupe de 5 ruches qui y sont installées pour la production de miel. Depuis 2 ans, il fait partie d'une dizaine d'apprentis apiculteurs qui participent à ce projet du centre de jour pour itinérants, une activité qui l'a transformé. Ça fait une grosse différence, dit-il. Je me sens plus responsable, plus autonome. Ça m'a aussi aidé à apprivoiser des gens, parce que d'habitude, moi, je ne parlais pas. Quand ils sont à l'œuvre, les apiculteurs amateurs sont supervisés par des professionnels de l'entreprise Alvéole. On essaie vraiment de leur apprendre tous les rudiments de l'apiculture au fur et à mesure de la saison, explique l'apiculteur Alexis Daudelin. Ce dernier leur montre notamment comment inspecter une ruche pour vérifier l'état de la santé d'une colonie et de sa reine. Une 5e saison, l'initiative baptisée « Le miel de Bono » en est à sa 5e année de vie et vise la réinsertion sociale. Elle permet d'inculquer une éthique de travail aux apprentis apiculteurs. L'objectif est de développer des habiletés, des gestes qui sont complètement différents de ceux de la rue ou dans le centre de jour. Les gars doivent être calmes, ils doivent travailler avec l'abeille, suivre son mouvement, suivre le mouvement de la ruche, explique la directrice des communications et responsable des projets spéciaux à l'accueil Bono, Geneviève Kiefer-Després. Le projet qui enseigne aussi aux participants à être ponctuels et à travailler en équipe est une réussite selon l'accueil Bono. Un des apprentis apiculteurs a même été embauché par Alvéole. Des pots de miel en vente. Plus de 70 ruches seront installées cette année à différents endroits dans le Grand Montréal dans le cadre de cette initiative. L'objectif est de produire 1400 kg de miel, ce qui permettra de vendre quelques 5000 pots qui se retrouveront entre autres sur les tablettes des épiceries métro. Les fonds ainsi récoltés sont par la suite réinjectés dans le projet. Au-delà de la réinsertion sociale, l'initiative permet aussi de tisser des liens. Il y a un échange qui est fait avec l'intermédiaire des abeilles, mais qui est incroyablement humain. Je me suis fait des amis. C'est des personnes que j'ai appris à connaître. C'est un plaisir de les retrouver à chaque semaine, dit Alexis Daudelin, d'Alvéole, faisant référence au gars de l'accueil Bonneau. Quant aux participants, ils retirent aussi un petit salaire de leur travail. Avec l'argent qu'il a épargné, Mario Brodeur a décidé d'aller visiter sa famille en Gaspésie cet été. « Ma famille m'encourage, ils me disent que je suis débrouillard », assure-t-il. « Avant, je ne sortais pas, je n'allais même pas voir ma famille », poursuit-il. « Depuis que le miel est là, je me promène, je me sens fier, c'est merveilleux. » Alors, voyez, Louis, on a beaucoup à apprendre des insectes et des animaux, comme vous disiez.
Et de la nature en général.
Ben oui, clairement.
Je porte des pauses, têtes comme pyjama, des trous de mémoire comme galoche, un jeu d'échecs comme pantalon, le cœur de travers dans ma poche de veston. Une voix sort de mes semelles et m'arrache les talons. Tu étais le voyage, moi le vent, aussi en bord d'une falaise norvégienne. Nous avons perdu la tramontane, étouffée dans la fumée de nos gitanes. J'ai replié mes blessures dans la tapisserie de ma vie et j'ai repris mon chemin. Je porte des post-it comme pyjama, des trous de mémoire comme galoche, un jeu d'échecs comme pantalon, le cœur de travers dans ma poche de veston. Ton nom dort dans le berceau de mes os. Ton nom dort dans le berceau de mes os. Ton nom dort dans le berceau de mes os. Tes mots jouent sur le manège de mes ménages. Ton sourire glisse sur le bord de ma mémoire.
Tiré de son album « Je deviens le loup », c'était la chanteuse albertaine Ariane Maric Lemire et la pièce « Post-it ».
Il y avait donc un lien quand même. J'écoutais la chanson et avec le « Je deviens le loup », très bien, il y a un lien comme
il
toujours.
Il est rusé.
Il est malicieux. Jean-François, vous nous parliez avant la pause d'inclusion sociale. Eh bien, oui. C'est presque lié. Je vous parle d'exclusion animale.
Il y a un lien,
parallèle.
On le voit.
Un parallèle.
Oui.
Ça se passe sur l'île britannique de Géorgie du Sud. Les rats ont disparu de l'île britannique de Géorgie du Sud, située à l'extrême sud de l'océan Atlantique, a annoncé mercredi une fondation qui a mené un projet visant à éradiquer les rongeurs envahissants de ce territoire pour y protéger les oiseaux. La Fondation pour le patrimoine de Géorgie du Sud est ravie de vous annoncer que son projet de restauration de l'habitat est terminé et que les rongeurs envahissants ont été éradiqués de l'île avec succès, a déclaré dans un communiqué Mike Richardson, le président du comité responsable du projet. Ce dernier a été préparé pendant près d'une décennie. et mis en place pendant 4 saisons subantarctiques, a précisé la Fondation. Il a nécessité tout de même un investissement de 10 millions de livres, soit environ 17,5 millions de dollars canadiens. Après plusieurs phases d'appâtage et d'élimination des rats, 4600 appareils ont été installés pour détecter la présence d'éventuels rongeurs, tandis que des équipes d'experts accompagnées de chiens renifleurs ont quadrillé à pied plus de 1600 km sur cette île de 170 km de long pour s'assurer de leur éradication. Les rats et autres rongeurs présents dans la cale des navires étaient arrivés sur l'île à partir de la fin du XVIIIe siècle, après sa découverte par le navigateur anglais James Cook en 1775. La Géorgie du Sud était ensuite devenue un point de passage pour de nombreux navires chasseurs de baleines. Les rongeurs avaient depuis proliféré, confinant certaines espèces à de petites îles au large de l'île principale. Selon la Fondation, la faune locale n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. À l'époque, les rongeurs se nourrissant des oiseaux présents sur l'île. Ils ont eu un effet dévastateur sur certaines espèces, particulièrement le pipit antarctique. Non, le pipit, j'ai mis un T trop. Le pipit antarctique, un petit oiseau aux plumes claires, striées de brun, et le canard à queue pointue de Géorgie du Sud. Depuis les dernières phases d'appâtage, certaines espèces d'oiseaux montrent déjà des signes de rétablissement très spectaculaires, précise la Fondation. Elle présente le territoire comme l'une des dernières grandes zones sauvages au monde où se trouve la quasi-totalité des otaries à fourrure antarctique et la moitié des éléphants de mer dans le monde. Elle est aussi le refuge de 4 espèces de pingouins et de nombreuses espèces d'oiseaux, dont des albatros, des prions, des labs ou des sternes. Voilà donc pour ce vaste territoire, une grande île quand même, je me souvenais pas de ce chiffre, 170 km, ça commence à faire de l'espace, et ils ont réussi à éradiquer la population de rats apportée par l'homme. L'homme est souvent derrière les problèmes quand même.
C'est vrai, ce sont des mal-aimés, hein, des rats, là. Je suis sûr qu'ils sont gentils à leur façon.
Ils doivent être utiles, ça c'est certain, mais sur les îles aussi.
Ouais, ça peut être un peu embêtant.
Oui, on va les laisser là où ils sont.
Mais des rats, passons aux robots. Il y a un lien, là.
Il y a une première leçon commune.
C'est un début. Un robot insecte prend son envol. C'était publié sur le site d'ici Radio-Canada. Vous voyez d'où viennent mes sources, là. Hein? C'est souvent sur ces sites.
Assez cohérent.
Oui, voilà. Un texte d'Alain Labelle qui est paru mercredi dernier, le 16 mai. Un premier robot sans fil de la taille d'un insecte a été conçu par une équipe américaine d'ingénieurs. Le Robot Fly est légèrement plus lourd qu'un cure-dent et est alimenté par un faisceau laser. Les tâches qu'il pourra accomplir sont nombreuses, notamment faire le suivi des cultures dans les champs ou encore détecter des fuites de gaz. Ce robot insecte s'envole au moyen d'ailes miniatures, mais n'utilise pas d'hélice comme son cousin, le drone. Sa petite taille est un avantage puisqu'il n'est pas cher à fabriquer et peut facilement se glisser dans des endroits étroits qui sont généralement inaccessibles aux drones qui sont plus imposants. De la science-fiction à la réalité. Jusqu'aujourd'hui, les ingénieurs avaient de la difficulté à créer des robots insectes puisque ceux-ci ont besoin d'éléments électroniques assez lourds pour alimenter et contrôler leurs ailes, ce qui est un problème pour leur permettre de prendre leur envol. Le concept de robot volant sans fil de la taille d'un insecte était de la science-fiction. Ne serions-nous jamais capables de les faire fonctionner sans avoir besoin d'un fil? Or, l'ingénieur Sawyer Fuller et ses collègues de l'Université de Washington ont réussi, pour la première fois, à créer un robot insecte muni d'un cerveau totalement indépendant. Le RoboFly utilise un minuscule circuit intégré qui convertit l'énergie du laser en électricité pour faire fonctionner ses ailes. Notre nouveau RoboFly sans fil nous rapproche de la réalité. Le défi du battement d'ailes. Pour les ingénieurs, recréer un battement d'ailes représentait un véritable défi technique. Un battement demande beaucoup d'énergie puisqu'il nécessite un contrôleur encombrant pour diriger les ailes difficiles à embarquer sur un si petit robot. Le premier robot insecte créé par cette équipe, le Robot Bee, était d'ailleurs alimenté et contrôlé par des fils liés au sol, une contrainte qui ne lui permettait donc pas de fonctionner librement. M. Fuller et ses collègues sont donc retournés à la table de dessin pour finalement concevoir un robot alimenté par un faisceau laser étroit et invisible. Celui-ci est dirigé vers une cellule photovoltaïque fixée au-dessus du RoboFly qui convertit la lumière du laser en électricité. C'était le moyen le plus efficace pour transmettre rapidement beaucoup d'énergie à RoboFly sans toutefois lui ajouter de poids. Le recours au laser ne permet toutefois pas de fournir assez d'électricité pour déplacer les ailes. Les chercheurs ont donc conçu un circuit qui propulse les 7 volts sortant de la cellule photovoltaïque jusqu'aux 240 volts nécessaires au vol. Mieux, pour permettre au robot de contrôler ses propres ailes, les ingénieurs lui ont greffé un cerveau sous la forme d'un microcontrôleur installé dans le circuit. Le microcontrôleur agit comme le cerveau d'une vraie mouche en indiquant aux muscles de l'aile quand battre et avec quel effort. Vikram Iyer, doctorant en génie électrique à l'Université de Washington. En fait, le contrôleur envoie des décharges électriques par vague afin d'imiter le battement des ailes d'un insecte réel. À ce stade de son développement, RoboFly ne peut que décoller et atterrir. Une fois que la cellule photovoltaïque est hors de la ligne directe du viseur du laser, le robot manque d'énergie et atterrit. Mais l'équipe espère pouvoir bientôt diriger le laser pour que le robot insecte puisse voler en vol stationnaire. De futures versions pourraient cependant ne pas être alimentées par un laser. Elles pourraient utiliser de minuscules batteries ou encore puiser leur énergie à partir de signaux radiofréquences. Je pense que c'est avec un exemple comme ça qu'on se rend compte que la nature est bien faite. Ça devient compliqué de le limiter.
C'est inspirant.
Oui!
Vous nous parlez du futur, je vous ramène un peu dans ce qui semble être le passé, les lettres écrites qui en écrit encore. Eh bien, il y a une innovation aux États-Unis, la Poste américaine émettra en juin ses tout premiers timbres grattés et santés aux effluves estivaux, promettons. La série de timbres sera illustrée d'aquarelles représentant des glaces à l'eau multicolore. Selon la Poste, ces timbres apporteront un doux parfum d'été aux lettres envoyées une fois grattées. Ils seront lancés le 20 juin dans un musée pour enfants d'Austin, au Texas.
C'est ce qu'on appelle le scratch and sniff. Là.
Exactement.
C'est magnifique, ça.
C'est merveilleux. Ce sera encore plus beau de recevoir des lettres écrites. Déjà que c'est touchant en 2018. On se retrouve avec encore plus de nouvelles et d'articles juste après la pause. Donc restez avec nous. À dans quelques minutes.
Sort then, please don't.
desert slopes and frozen noses, frozen toes. The frozen city starts to glow, and yes, they know that.
La chanteuse russo-américaine Regina Spektor et la pièce Don't Leave Me, Ne Me Quitte Pas.
Eh bien, cette fois-ci, le lien est fait dans l'autre sens, involontairement, puisque j'ai un article en lien avec cela. Alors, la plupart du temps, la majeure partie du temps, nous essayons de trouver des articles qui s'adressent un peu à tout le monde. Je vais faire une entorse à cette règle tacite, puisqu'il s'adresse particulièrement aux hommes, et notamment aux hommes qui veulent séduire, cet article.
Ah, mais ça m'intéresse, Louis.
Alors, qui veulent séduire certaines femmes, croit-on, d'après cette étude. Les femmes sont attirées par les hommes dotés de jambes légèrement plus longues que la moyenne, mais elles semblent indifférentes à la longueur de leurs bras, selon une étude parue mercredi. La préférence des femmes et des hommes pour des partenaires du sexe opposé ayant de grandes jambes avait déjà été mise en évidence par une étude polonaise en 2008. D'autres études ont suivi, confortant l'idée que pour un homme, avoir des jambes relativement grandes constituait un atout pour séduire les femmes. Une équipe de psychologues et de spécialistes de l'évolution, rien de moins, de l'université de Cambridge, a cherché à affiner ses résultats côté jambes, à voir ce qu'il en était côté bras, et à regarder si la proportion entre la jambe proprement dite et la cuisse jouait un rôle dans le pouvoir de séduction d'un homme. C'est très précis. Les chercheurs ont mené leurs expériences via Internet auprès d'un total de 800 femmes aux États-Unis, de différentes origines. Elles devaient noter leur degré d'attirance pour une figure masculine centrée, mince et musclée, en caleçon noir, dont la taille globale ne changeait pas, mais dont la longueur des jambes variait, ainsi que celle des bras. Les images de synthèse présentées à ces femmes ont été réalisées à partir de données sur des militaires américains. Premier constat, pour les femmes, la variation de la taille des bras n'a pas d'effet sur l'attractivité des hommes, souligne l'étude parue dans Royal Society Open Science. En revanche, la taille des jambes a un effet prononcé sur l'attractivité des hommes, l'optimum étant une longueur légèrement au-dessus de la moyenne. Mais lorsque les jambes sont vraiment très longues par rapport au reste du corps, l'attirance décroît. Enfin, les femmes marquent une légère préférence pour les hommes bien proportionnés dont le ratio taille du tibia sur taille de la cuisse se situe dans la moyenne. D'un point de vue scientifique, parce que c'est très scientifique, ai-je besoin de le rappeler, cela suggère qu'au cours de l'évolution humaine, la longueur des jambes a eu un effet important sur la faculté d'un individu à se reproduire et que c'est devenu ensuite un critère de choix de partenaire, déclare à l'AFP Thomas Verluis de l'Université de Cambridge, co-auteur de l'étude. Cette préférence féminine pour des jambes masculines légèrement plus longues que la moyenne pourrait s'expliquer parce qu'elles offrent un équilibre entre les avantages d'avoir un partenaire de grande taille, ce qui évoque potentiellement la force et une bonne position sociale, et ceux liés au fait que cet homme reste proche de la moyenne, ce qui est associé à un bon système immunitaire et à une bonne santé, avancent les chercheurs. Les scientifiques sont surpris que les femmes ne soient pas sensibles à la taille des bras masculins. C'est en contradiction avec toute une série de recherches montrant que la longueur du bras est importante pour lancer des choses, se battre, etc., relève Thomas Verluis. Et pour conclure cet article, j'ai donc une petite pensée à tous ces hommes que je vois régulièrement au gym. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
Je pense que je ne me qualifie pas, moi, avec les critères qui sont exigés. Peut-être mettre des sabots, on pourrait compenser.
On peut compenser, ou avec la beauté intérieure. Ça, ou les sabots.
Ça serait sans doute
miser sur l'un des deux.
Oui, merci. Ben, restons dans la séduction pour les femmes. En fait, c'est un hommage aux femmes de pouvoir. C'est un texte d'Étienne Plamondon et mon collaboration spéciale dans Le Devoir qui est paru le 12 mai dernier. Néfertiti, Néfertari, Hatshepsut, ces noms de l'antique Égypte égyptienne ont traversé l'histoire, preuve de la place occupée par les reines et les femmes durant le Nouvel Empire. Le musée Pointe-à-Calière nous invite à leur rencontre. Francine Lelièvre, directrice générale de Pointe-à-Calière, rêve de cette exposition depuis une vingtaine d'années. L'Égypte antique constitue une période classique à couvrir pour un musée d'archéologie. Celui de Pointe-à-Calière n'avait jamais accueilli de pièces de cette civilisation entre ses murs. On n'avait pas de salle d'exposition temporaire suffisamment adéquate, rappelle-t-elle. Un thème comme l'Égypte, il faut lui donner un peu d'espace. Puis, en 2013, l'établissement muséal a inauguré son nouveau pavillon de la Maison des Marins. Il a ensuite collaboré avec Muséo et Gisio de Turin pour faire venir certains objets de valeur. C'est de cet établissement que vient le clou de l'exposition Reine d'Égypte, le sarcophage de Néfertari, épouse favorite de Ramsès II, découverte dans la vallée des Reines en 1904 par l'archéologue italien Ernesto Schiaparelli. C'est la pièce maîtresse qui a fait qu'on a lancé cette exposition, indique Francine Lelièvre. Hommage aux femmes de pouvoir. L'occasion était donc belle de sortir de l'habituelle exposition sur les pharaons ou les lieux égyptiens pour mettre en lumière les femmes qui ont joué un rôle central durant le Nouvel Empire. Cette époque est considérée par certains comme l'âge d'or de cette civilisation de la vallée du Nil, alors que Thébès constituait son centre névralgique. Cette période de paix, marquée par le développement et le raffinement artistique, s'étend entre 1539 et 1076 avant notre ère, soit environ 1000 ans après la construction des pyramides de Gizeh. C'est comme ça qu'on le prononce, Gizeh?
Certains disent Gizeh, mais j'ai déjà entendu Gizeh également.
Vous me rassurez. Alors j'y vais avec Gizeh. Et 1000 ans avant Cléopâtre. Plusieurs icônes de ce nouvel empire furent des femmes. Amès Néfertiti, d'abord gouvernante en tant que gérante, jusqu'à ce que son fils Amon-Hotep I atteigne l'âge de prendre le pouvoir. Cette reine est devenue par la suite une déesse vénérée à Dier el-Médiné, le village des artisans affectés au site funéraire de la vallée des rois et de la vallée des reines. Plus tard, Hatshepsut devient reine pharaon et est présentée comme la fille du dieu Amon. Environ un siècle plus tard, Néfertiti se révèle bien plus que l'épouse d'Akhenaton. Les sculptures mettent fréquemment en scène le couple royal, preuve de son influence. Ce que je souhaiterais que les visiteurs retiennent, c'est que c'est une grande civilisation et que les femmes y ont joué un rôle important, beaucoup plus que les Romaines ou les Grecs. Les femmes égyptiennes pouvaient être au pouvoir, pouvaient influencer, exprime Francine Lelièvre. Lorsqu'elles avaient des enfants, elles pouvaient transmettre leur héritage. Elles pouvaient boire du vin en public. Elles étaient libres. Elles avaient aussi réussi dans la société à prendre leur place. Plongez dans l'ambiance. Au-delà de quelques 350 objets qu'on peut y admirer, l'exposition inaugurée le 10 avril dernier et à l'affiche jusqu'au 4 novembre permet de plonger dans l'ambiance qui régnait à cette époque grâce à une collaboration avec Ubisoft. Heureuse coïncidence, l'entreprise de jeux vidéo a sorti l'automne dernier le jeu Assassin's Creed Origins, dont le récit se situe en Égypte antique. Deux capsules éducatives, l'une sur les hiéroglyphes et l'autre sur la momification, ont été réalisées dans leur studio. Surtout, des images projetées sur grand écran reproduisent en détail les décors particulièrement animés dans l'espace consacré au village Dier el-Médiné. On a cherché dans le parcours et les ambiances à amener le visiteur dans des lieux, souligne Elisabeth Côté, chargée de projet pour l'exposition. Le premier étage, consacré à la vie à Thébès, présente d'entrée de jeu de colossales statues à tête de lionne du temple dédiées à la déesse de la guerre Sekhmet. Plus loin, les visiteurs sont introduits au harem royal, lieu d'éducation où les femmes et les enfants se côtoyaient. À l'intérieur de cette section se déroule un papyrus judiciaire écrit en hiératique, une forme simplifiée de hiéroglyphe. Il s'agit d'un jugement relatif au complot organisé dans le harem par Tilly, épouse secondaire de Ramsès III, pour assassiner ce dernier et placer son fils au pouvoir. C'est un récit marquant du Nouvel Empire, souligne Elisabeth Côté. On est privilégié d'avoir cet objet à Montréal. Le visiteur monte ensuite au deuxième étage, comme s'il traversait le Nil vers sa rive gauche, là où se trouvent la vallée des rois et la vallée des reines. L'étage consacré à la mort, à ses rites, à son art, présente stèles, sarcophages en bois, ainsi que vases dans lesquels certains organes des défunts étaient placés. Le parcours mène au sarcophage en granit de Néfertari, entouré d'une réplique des murs de sa chambre funéraire et accompagné par des objets qui ont été retrouvés à l'intérieur. Parmi ceux-ci, Francine Lelièvre désigne une paire de sandales en feuilles de palmier tressées. À ses yeux, il s'agit d'une pièce des pièces les plus touchantes de l'exposition, alors qu'elle s'imagine la femme qui les a chaussées il y a plus de 3200 ans. Je vous rappelle que cette exposition est en cours au musée Pointe-à-Calière jusqu'au mois de novembre, le 4 novembre.
Je vous emmène à présent sur le toit du monde, rien de moins, sur le mont Everest. Mont Everest qui est l'objet de tous les superlatifs et qui donne lieu parfois à des records. Alors, on a peut-être en tête des reportages huissiers là sur les premiers à l'avoir grimpé.
Vous l'avez gravi, vous ?
Pas encore. C'est au programme. Sur les plus jeunes à l'avoir monté, sur ceux qui ont ouvert de nouvelles voies. Mais on parle trop peu souvent de ceux qui sont dans l'ombre et qui pourtant détiennent certains records tout à fait impressionnants. Je parle des Sherpas et je leur rends hommage ce matin. Un guide Sherpa a établi une nouvelle marque mondiale mercredi quand il a atteint le sommet du mont Everest pour la 22e fois. L'homme de 48 ans, Rami Kamirita, accompagnait un groupe d'alpinistes étrangers et un autre Sherpa. Il comptait parmi trois individus, tous des Sherpas népalais, qui avaient visité le toit du monde à 21 reprises. Il est désormais seul en tête. Kamirita a dit à l'Associated Press le mois dernier qu'il souhaite répéter l'exploit au moins 25 fois. Il a complété sa première ascension à l'âge de 24 ans. Monsieur Rita est issu d'une longue tradition familiale de guide de montagne. Son père fait figure de pionnier dans le domaine, son frère a gravi l'Everest 17 fois, et la plupart des hommes de sa famille ont rejoint le sommet au moins une fois. Une famille tout à fait extraordinaire. Du côté chinois de la montagne, Lakpa Sherpa a également atteint le toit du monde mercredi. Il s'agissait d'une 9e conquête pour la Népalaise, qui bat ainsi son propre record du monde d'ascension réalisé par une femme. Lakpa Sherpa serait née vers 1974 et demeure maintenant au Connecticut où elle travaille dans un supermarché. Ça, avouez que ce n'est pas banal de faire son épicerie, passer à la caisse et être face à une femme qui a gravi 9 fois le toit du monde. Rappelons quand même que le mont Everest culmine à 8850 mètres. Bravo à tous ces Sherpas.
Parti.
On vient d'entendre la chanteuse Marie-Pierre Arthur et la pièce Rien à faire.
Ben, j'ai quelque chose à faire.
Oui, j'espère bien, sinon ça va être un petit peu long jusqu'à la fin de l'émission. Nous avons des choses à faire, il nous reste des sujets.
Mais oui, vous devez pas être le genre à vous apitoyer sur votre sort. Hein.
Je considère que c'est une perte de temps. Voilà, bon, c'est mon petit
paraît.
Avis.
Oui, oui, c'est votre éditorial du mardi matin. Vous êtes très positif comme personne, vous. Alors, mon article ne vous concerne pas nécessairement, mais sans doute que ça pourrait aider d'autres personnes. La tentation de s'apitoyer sur ses malheurs. C'est paru dans le journal Métro par Alain Sanson le 14 mai dernier. Il est tentant, quand un malheur survient, de penser que c'est la fin du monde et qu'il n'y a plus rien à faire, que notre sort est scellé. Et si c'était plutôt le début d'une nouvelle aventure? Alors là, ça vous rejoint, ça. Mm-hmm.
Ça me parle.
Pourquoi ne pas envisager l'avenir au lieu de se contenter de jouer au martyr? Quand Ralph Brown a eu 6 ans, ses parents ont appris qu'il souffrait de dystrophie musculaire et qu'il ne vivrait pas jusqu'à l'adolescence. À 14 ans, il vivait encore et s'est retrouvé confiné dans un fauteuil roulant. Dans l'année, son père et lui ont fabriqué un triporteur motorisé qui lui a permis de se rendre à son travail. Un peu plus tard, son employeur a déménagé plus loin. Son père et lui ont alors inventé un mécanisme qui lui permettrait d'être soulevé dans un véhicule. Peu de temps après, ils fondaient Brown Ability. Depuis, ils ont aidé des milliers de personnes à se mouvoir en dépit de la maladie. Ralph est finalement mort en 2013, attention, à l'âge de 72 ans. Il a laissé derrière lui une entreprise employant plus de 800 personnes et améliorant la vie de dizaines de milliers d'individus. Il a inventé des produits et ainsi fait école. Après le diagnostic de dystrophie, il aurait pu s'avouer vaincu et attendre la mort. Ses parents auraient pu faire de même. Mais il n'en était pas question. Loin de s'apitoyer sur ses malheurs, il a passé sa vie à améliorer la vie de ceux qui, comme lui, étaient en perte de mobilité. Il s'est trouvé donc une mission. Il est tellement tentant, quand survient une injustice, une difficulté, de s'en servir pour justifier son inaction. Il est plus facile de jouer les victimes et de faire pitié que de demander ce qu'on peut faire avec la situation qui est la nôtre. Il est tellement plus facile de se déresponsabiliser et de se dire que tout est joué et que plus rien n'est possible. D'autres, au contraire, sans doute comme vous, Louis, se retroussent les manches et s'orientent vers de l'action. Qu'en est-il de vous, cher auditeur? Qu'est-ce qui vous retient actuellement et quels gestes pourriez-vous poser pour y faire face? Comment pourriez-vous améliorer la vie des gens qui vous entourent ou celle de ceux qui font face aux mêmes défis? Vous avez le choix, rester aux commandes de votre vie et décider de ce que vous en ferez ou déclarer forfait et vous avouer vaincu. Une faillite, un divorce ou une maladie ont certes des répercussions considérables, mais il y a moyen d'en tirer quelque chose de bon. Quelle que soit votre condition, vous avez le pouvoir de devenir le Ralph Brown de votre vie et d'avoir une incidence positive sur l'univers. Il suffit que vous décidiez d'agir.
Et en voilà un qui aurait une bonne raison de s'apitoyer sur son sort, on va voir s'il le fait ou non. Je vous parle d'Iron Man. L'armure d'Iron Man portée par Robert Downey Jr. a été volée. Appelez les Avengers, quelqu'un a volé le costume d'Iron Man. La police de Los Angeles a fait savoir à l'AFP mercredi que l'armure dorée, bien connue, dorée rouge portée par Robert Downey Jr. dans le premier opus de la saga à succès en 2008, avait disparu de l'entrepôt où elle était stockée. Les propriétaires de l'entrepôt ont contacté la police mardi et pensent que l'armure portée par Tony Stark, l'homme d'affaires qui se transforme en homme de fer, bien joué, a été subtilisée entre février et le 25 avril de leur site de stockage d'accessoires de cinéma à Pacoyama, dans la banlieue de Los Angeles. La police affirme que ce vol inhabituel est considéré comme une priorité, mais que les enquêteurs n'ont pour l'instant aucune piste pour retrouver l'armure, évaluée tout de même, mine de rien, à $325,000. Oh. Le premier Iron Man, adapté d'une bande dessinée de Marvel, a généré $585 millions dans le monde, et la saga des super-héros Avengers, dont Tony Stark est l'un des leaders, a accumulé des milliards de dollars au box-office mondial, dont en ce moment avec leur dernier film qui tourne.
Moi, je regarderais dans le ciel. Ça serait sympa.
Probablement qu'elle vole en pilote automatique quelque part entre les nuages, peut-être.
Les premiers violons ont été conçus pour imiter la voix. Les musicologues ont longtemps soupçonné les inventeurs du violon d'avoir voulu imiter la voix humaine. Une nouvelle étude en fait la démonstration avec des modèles conçus par des luthiers italiens du 16e au 18e siècle, dont plusieurs Stradivarius. Des chercheurs de l'Université de Taïwan ont fait jouer par un violoniste professionnel 15 violons antiques. Ils ont ensuite comparé, par un banal logiciel d'analyse phonétique, les notes des violons à celles des 8 femmes et hommes chantant des voyelles anglaises. Eh bien, le résultat, sans surprise, les Stradivarius exprimaient des caractéristiques acoustiques très proches des voix du ténor ou d'alto.
L'homme qui dégainait les thèmes musicaux plus vite que son ombre, Jean-Sébastien, impressionnant.
Il est très fort.
Je vous fais faire le grand écart ce matin après vous avoir emmené sur le mont Everest. Eh bien, plongeons tout au fond des océans, et vraiment tout au fond des océans, pour une raison un peu moins réjouissante que les Sherpas, malheureusement. Le sac de plastique le plus profond du monde. Un sac de plastique à usage unique a été pris en photo à 11 000 mètres de profondeur. On ne pourra pas battre ce record, il s'agit de la fosse des Mariannes dans le Pacifique, à l'endroit le plus profond de la croûte terrestre. La photo provient de la base de données Deep Sea Debris, une initiative japonaise lancée en 2017. Celle-ci vise à archiver photos et vidéos de déchets amassés depuis 1983 par des sous-marins et des robots opérant en eau profonde. Une synthèse parue en avril dans la revue Marine Policy signale que sur les 3425 débris de fabrication humaine recensés, plus de 33% sont en plastique, et de ceux-ci, 9 sur 10 sont à usage unique, bouteilles d'eau, ustensiles et sacs. Et on les retrouve en plus grand nombre dans les plus grandes profondeurs, plus de 6000 mètres de profondeur. Le but de cette compilation était d'ajouter une couche à notre compréhension de la pollution des océans par le plastique. On savait que ces déchets voyageaient très loin, mais on n'imaginait pas aussi profondément. Concluons donc, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Jean-François.
Mais tout plaisir est pour moi, Louis.
Pour ces sujets étonnants, décidément, peut-être que je déteins un petit peu sur vous au fil des émissions, mais je m'en réjouis parce que vous arrivez à me surprendre des choses que je n'avais pas vues passer dans l'actualité, et j'aime ça, et c'est intéressant.
Mais c'est un défi qui peut aussi être bénéfique pour l'auditoire, hein. C'est pour eux qu'on travaille.
Je l'espère que nous sommes divertissants et intéressants ensemble. Remerciements à Jean-Sébastien, La Liberté également, de l'autre côté de la vitre, pour la mise en onde et les choix musicaux d'une pertinence que nous aiguisons également, j'espère, au fil des semaines. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, nous.
Très certainement.
Nous serons bien là. Il y aura peut-être quelques absences au cours de l'été, nous vous redirons ça. Mais nous serons bien là la semaine prochaine et celle d'après, ça c'est certain. Donc bonne semaine à tous.
Merci, bonne semaine, Louis.
À mardi prochain.
Salut.